je trouve ça plutôt sain qu'on ait pris le temps de bien poser le cadre dans lequel on allait se transformer. Parce qu'encore une fois, c'est pas une opération de court terme, c'est pas du marketing, c'est vraiment une transformation de long terme.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Au micro, je reçois des dirigeants d'entreprise et des managers de mission qui nous expliquent leur motivation, leur cheminement vers la société à mission et les actions lancées depuis. Mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Denis Tader, Chief Mission Officer chez WACAM, assureur à mission. Vous ne connaissez probablement pas cette entreprise, pourtant en très forte croissance, car ils font de l'assurance en marque blanche pour des partenaires. Denis a la particularité d'être un des très rares managers de mission quasiment entièrement dévoué au pilotage de la mission d'entreprise. Comme il le dit, on a rarement l'occasion de participer à la création d'un métier. Dans cet échange, on a traité de beaucoup de sujets. Comment l'entreprise s'est transformée ces dernières années, ce qui est notamment passé par un changement de nom et de culture. Comment Olivier Jaillon, son CEO, a très tôt saisi l'intérêt de devenir société à mission. Comment cette adoption a été préparée alors que rien ou presque n'existait en 2020. Et comment la mission est pilotée aujourd'hui. Vous verrez, c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont partis du terrain avant de rentrer les différents objectifs dans les canons de la société à mission. Et même si on parle d'un secteur d'activité qui peut être assez technique, l'assurance, Denis a bien respecté un des éléments essentiels de la mission de WACAM, la transparence. J'ai compris tout ce qu'il a dit. Une bonne partie de l'échange a également porté sur son quotidien. Ses principales responsabilités en tant que Chief Mission Officer, comment il travaille avec le comité de mission, avec les différents pilotes de chantier en interne, comment la mission se fond dans le quotidien de l'entreprise. Il ne s'ennuie vraiment pas, d'autant qu'il considère qu'une partie de son métier est également de partager les connaissances acquises. Donc vraiment, n'hésitez pas à le contacter, notamment sur LinkedIn. Sans plus attendre, je laisse place à notre échange. Bonjour Denis.
Bonjour Vivien.
Eh bien, merci beaucoup de me recevoir dans les locaux de WACAM, ici en plein cœur de Paris. Locaux très agréables d'ailleurs, très ouverts, très spacieux, sur plusieurs étages. Enfin, c'est un vrai plaisir d'être là pour parler de la mission de WACAM qui t'anime au quotidien, puisque je vais y revenir, mais tu es le Chief Mission Officer de WACAM. Alors peut-être pour commencer, je vais te présenter, je te laisserai ajouter des éléments si jamais j'ai oublié des choses ici. Mes informations sont erronées.
Très volontiers.
Donc Denis Tader, en regardant ton parcours, je me suis dit que tu étais un peu l'inverse d'Obélix. Tu n'es pas tombé dans la marmite de la mission en étant petit. Tu as un parcours de financier, en contrôle de gestion d'abord, puis dans des rôles de directeur financier. D'ailleurs, c'est le poste auquel tu es arrivé à la Parisienne Assurance en 2011, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Au bout de 2 ans, tu deviens Chief Revenue Officer. Poste que tu occupes jusqu'en 2019, puis en 2019, donc en septembre de cette année, tu deviens Chief Mission Officer avec pour mandat de piloter l'adoption de la qualité de société à mission. Il faut juste quand même qu'on se remette à l'esprit que septembre 2019, c'est juste quelques mois après la loi Pacte. Hein, donc vraiment parmi les précurseurs, j'imagine que tu as vraiment débroussaillé le sujet à l'époque. Aujourd'hui, tu pilotes la mission de WACAM, tu t'occupes également de la commercialisation de l'offre d'assurance inclusive. Et je crois même que tu vas t'occuper du fonds de dotation WACAM for Good. Enfin bon, tu es quand même très impliqué dans la vie de la mission au sein de WACAM. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, c'est assez complet, mais effectivement, on pourrait dire que j'ai un parcours assez polyvalent. J'ai travaillé dans quelques secteurs d'activité, et puis ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis maintenant dans le monde de l'assurance. Effectivement, en commençant par les sujets financiers, puis le développement, et maintenant la mission.
Revenons un peu sur WACAM, parce que c'est une entreprise qui, en fait, n'est pas toute jeune, même si le nom de WACAM est assez jeune. Avant, ça s'appelait la Parisienne Assurance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement cette évolution entre la Parisienne Assurance, les métiers que l'entreprise pouvait avoir et l'évolution vers WACAM ?
Alors, on est devenu WACAM en septembre 2020. On a l'impression que ça fait maintenant une éternité. On en vient même à oublier qu'on a pu s'appeler la Parisienne Assurance. Donc quelques grandes étapes. Donc 2000, c'est la date à laquelle Olivier Jaillon rachète la Parisienne Assurance. Un jalon 15 années plus tard, 2015, repositionnement stratégique, donc ça c'est une date importante. On décide vraiment de se concentrer en tant que compagnie d'assurance sur la création de produits d'assurance. Donc on est une société Yard, hein, distribuée en marque blanche et à destination de nos partenaires distributeurs. Donc ça, c'est une date assez importante. 2018, un autre jalon important, lancement de notre plateforme technologique qui intègre nos produits en API. Donc on met à disposition de nos partenaires nos produits en API. On met à disposition aussi une blockchain privée, un data hub. Et puis l'idée, c'est d'automatiser certains produits d'assurance. Donc ça aussi, c'est un jalon important. 2020, je l'ai évoqué, c'est la Parisienne qui devient Wacam. Donc là on veut accentuer notre rôle d'assureur B2B, digital, global, et puis effectivement en marque blanche. L'idée, on est très pan-européen, donc l'idée c'est aussi d'avoir une image qui accompagne, une identité qui accompagne ces transformations qu'on a opérées précédemment.
Peut-être juste, avant que tu continues, je me permets de t'interrompre, parce qu'il y a deux éléments sur lesquels tu as insisté à l'instant, là, et qui, j'ai l'impression, sont vraiment assez importants dans la transformation de Wacam. Le premier, c'est l'aspect digital. On a l'impression que la Parisienne, c'était voilà, une assurance, tout bonnement, métier traditionnel, et Wacam, nouvelle ère, le digital est au cœur de l'entreprise. Et le deuxième élément, après je te laisserai détailler, le deuxième élément, c'est l'international, avec justement cette volonté d'être beaucoup plus tourné vers l'international et l'Europe plus particulièrement. Donc peut-être d'abord sur le digital, est-ce que ces deux transformations-là, est-ce que j'ai bien compris un petit peu la manière dont Olivier Jaillon a porté cette transformation ?
Oui, c'est deux éléments essentiels. Digital, c'est faciliter la commercialisation de nos produits, donc les mettre à disposition de nos partenaires de la façon la plus, la plus efficace possible. Le produit est hébergé chez Wacam, le partenaire vient chercher le produit au travers d'une API, et puis ensuite, dans un certain nombre de cas, effectivement, les produits sont intégrés dans une blockchain, donc il y a les notions d'innovation qui portent ces transformations. Le côté européen, c'est quand Wacam était encore la Parisienne, on était présent d'une manière encore relativement modeste dans un certain nombre de pays européens. Avec Wacam, c'est aussi le lancement de projets pan-européens avec des distributeurs, c'est-à-dire de proposer des solutions à un client donné, à un distributeur donné dans une multitude de pays. C'est le fait d'accentuer notre présence dans tous les pays, dans les 32 pays de l'Union européenne. Voilà, donc c'est une forme d'accélération de cette digitalisation, une forme d'accélération du côté de notre capacité à se projeter dans plusieurs pays, d'accord, dans beaucoup de pays.
Donc je t'ai interrompu, tu étais en 2020, sur justement un petit peu l'histoire de Wacam.
Donc oui, 2020. Ensuite, 2021, donc mars 2021, Wacam devient société à mission. Présent dans 32 pays européens. Et puis 2022, encore une nouvelle évolution. On crée une plateforme Play & Plug pour nos partenaires qui permet de créer de l'assurance sur mesure et embarquer pour piloter l'activité de nos partenaires. Donc c'est une plateforme digitale qui permet à nos partenaires de visualiser un certain nombre d'éléments, leurs performances, des chiffres clés, de venir consommer des produits. Donc voilà, c'est une nouvelle étape dans la mise à disposition de services auprès de nos distributeurs.
Juste pour que ça soit bien clair pour les auditeurs, c'est qui les partenaires dont tu parles ?
Alors c'est effectivement une question importante. Nos partenaires, ce sont des distributeurs qui sont à la fois des professionnels de l'assurance, donc des courtiers, des insurtech, ou des retailers, donc un constructeur automobile, un constructeur de roues, un e-retailer, comme Cdiscount par exemple. Donc nos partenaires vont distribuer nos solutions d'assurance qu'on aura construit nous à CAM ou qu'on aura co-construit avec eux, et ils ont différentes formes.
D'accord. Alors, tu disais au début, on est passé Wacom en 2020, on a l'impression que ça fait déjà une éternité. J'imagine quand même que ça a été un changement de culture, d'identité, de manière de se présenter qui a quand même été assez fort. Toi qui as vécu l'avant et l'après, est-ce que tu peux nous donner pas des grandes étapes, mais en tout cas des grands marqueurs? Comment toi tu l'as ressenti?
Alors, moi, j'étais imprégné de la culture la parisienne puisque j'y travaille depuis plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que le changement était, à titre personnel, pas si facile parce que c'est vrai qu'on était imprégné de cette culture. Pour autant, on avait tous la conviction, et Olivier en tout cas l'a porté, cette conviction qu'il fallait changer d'identité pour accompagner nos propres transformations, qui collaient plus avec comment dire, un nom comme la parisienne. Donc, beaucoup de doutes et finalement, une réalisation qui s'est très bien déroulée parce que très bien préparée. Donc, ça a pris, si je me souviens bien, quasiment un an pour préparer cette transformation. Beaucoup d'accompagnement auprès de nos partenaires, de nos distributeurs, pour leur expliquer pourquoi, pour les accompagner, pour les aider. Et puis aussi beaucoup de communication en interne pour aussi préparer ce changement. Et finalement, encore une fois, 2 ans après, quasiment 2 ans après, on a l'impression que les choses se sont déroulées de manière tellement fluide et tellement évidente. Donc c'est plutôt une belle réalisation. Donc oui, une appropriation très rapide en interne et en externe. Notre notoriété n'en a pas pâti, bien au contraire. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de notoriété et de reconnaissance du marché qu'aujourd'hui. On est présent dans beaucoup d'écosystèmes, donc c'est vraiment une réussite, je trouve. Pas mal de changements internes aussi, pour faciliter l'accompagnement des collaborateurs. Un onboarding très digital des nouveaux collaborateurs, on embauche beaucoup, donc un onboarding 3.0, 360 degrés, je sais pas, on peut l'appeler de différentes manières. En gros, on a une plateforme où les collaborateurs peuvent visualiser quels sont les différents services, qui sont les personnes qui les pilotent, quels sont les enjeux de différents services. Donc, par exemple, sur la mission, moi j'ai fait une vidéo où j'explique ce que c'est que la mission au sein de Wacom, comment ça fonctionne. Donc, finalement, c'est une façon aussi de s'approprier l'entreprise, et notamment dans des, comment dire, avec la pandémie
Ah
qu'on a
oui.
vécue, voilà, il fallait fonctionner à distance. Donc, mettre à disposition des nouveaux collaborateurs et des collaborateurs en général des outils qui facilitent l'intégration au sein de l'entreprise.
Tu viens juste à l'instant de mentionner la vidéo d'explication de la mission qu'il y a pour l'onboarding. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la mission a été décidée quand même très en amont, puisque toi, tu es devenu Chief Mission Officer fin 2019, quasiment un an et demi avant que Wacom devienne entreprise à mission. Comment est-ce que cette décision a été prise de passer société à mission?
Alors, l'étincelle de départ, c'est la conviction d'Olivier Jaillon, donc notre dirigeant, que l'entreprise de demain qui va réussir, qui va perdurer, qui va être pérenne, c'est celle qui s'est alliée, combinée à la fois performance économique, donc robustesse économique, financière, et puis également engagement sociétal. Voilà, donc c'est cette conviction-là qui a porté cette décision. Il se trouve qu'au même moment, au moment où la loi Pacte est sortie, on était en train de travailler sur une gamme de produits qu'on appelle une gamme de produits d'assurance inclusive, et plus particulièrement de la micro-assurance, donc des produits d'assurance à destination de populations économiquement fragiles. Et c'était une forme de pas de côté, c'est-à-dire que l'entreprise croît très vite. On mène beaucoup de projets. Et puis, ce projet-là venait un petit peu à contre-courant, bah, où il fallait prendre son temps, réfléchir, travailler avec des associations, trouver, comment dire, partir d'une feuille blanche, identifier comment solutionner des besoins des personnes auxquelles on s'adressait. Et on avait aussi, c'était le parti pris, c'était de ne pas gagner d'argent, donc de fonctionner à marge nulle, prix coûtant, de rédiger la documentation en langage clair, la rendre accessible. Finalement, on travaillait déjà un peu les prémices de ce que serait, de ce que deviendrait un peu notre dispositif société à mission. Et donc, ces travaux sur cette gamme de produits, le fait qu'on devienne, comment dire, que la loi Pacte soit promulguée, et puis qu'Olivier ait cette conviction, C'est finalement ça qui sont la genèse, on va dire, de nos travaux pour devenir société à mission. Et quand tu dis pourquoi prendre autant de temps ou pourquoi
pas forcément, mais je trouve ça bien d'ailleurs.
Alors, on le disait un peu en préambule de notre discussion. Faut prendre du temps quand on travaille sur ces sujets-là parce que ce sont des sujets nouveaux. Où il y a encore peu d'histoire, donc c'est un terrain en friche. Donc déjà, il faut se faire accompagner, il faut bien réfléchir aux conséquences juridiques, parce qu'effectivement, on met quand même des choses dans ces statuts, c'est pas anodin. Quels sont nos enjeux stratégiques, quel combat on veut mener en tant que société à mission. Donc tous ces sujets-là nécessitent beaucoup de réflexion. Des réflexions pas en chambre, avec des collaborateurs, avec des partenaires, avec les parties prenantes. Donc, au contraire, je trouve ça plutôt sain qu'on ait pris le temps de bien poser le cadre dans lequel on allait se transformer. Parce qu'encore une fois, c'est pas une opération de court terme, c'est pas du marketing, c'est vraiment une transformation de long terme. Et prendre son temps, c'est au contraire la preuve combien l'inspiration est nécessaire pour ne rien oublier et ne pas se tromper, encore une fois, de combat.
Non, alors, loin de moi l'idée de penser qu'il ne faut pas prendre son temps, bien au contraire, hein, parce que là où je te rejoins complètement, c'est qu'il faut faire maturer aussi tout ça en interne, et ça peut prendre pas mal de temps, notamment dans une entreprise qui est en très très forte croissance. Donc il faut aussi prendre bien la mesure des conséquences. Il y a plusieurs éléments que tu as évoqués en parlant de ce produit qui était un peu à contre-courant justement de la croissance et qui sont assez constitutifs de la mission de Wacam, c'est la transparence et le langage clair notamment. Dans un précédent épisode de podcast que tu as fait il y a un peu plus d'un an maintenant, tu disais que c'était un petit peu les sujets que vous vouliez aborder de front dans la mission et dans le cœur de l'activité, c'est de se dire justement qu'est-ce qu'on a envie de faire différemment qui puisse mieux servir la société. C'est ce côté, les assureurs ne sont pas connus pour être très transparents et très clairs dans le langage. Donc ça a été un peu aussi à l'origine de la manière dont vous vouliez construire votre mission.
Oui, alors ces produits sont un peu la genèse de l'ensemble de notre dispositif. Effectivement, ils portent bien les notions de transparence. Effectivement, langage clair, le fait d'afficher le fait qu'on souhaite pas gagner d'argent sur cette gamme de produits. Et aussi le fait d'avoir de l'impact. L'idée, encore une fois, quand on fait ces choses-là, c'est pas juste pour pouvoir l'exprimer dans la presse et dire voilà, on a fait un truc qui est formidable. Non, l'idée c'est qu'on en fasse beaucoup. Encore une fois, derrière ces différents projets, derrière ces différents engagements, il y a l'idée c'est d'y aller à fond. Voilà, c'est pas de faire la moitié du chemin, non, l'idée c'est de le faire complètement. Donc quand on dit on veut faire de l'assurance inclusive, c'est d'en faire des centaines de milliers. Quand on dit on veut faire du langage clair, c'est pas transformer un ou deux produits et puis se donner bonne conscience, c'est de transformer l'ensemble de notre documentation juridique. Et il faut prendre son élan, et puis c'est pas facile, hein. Mais c'est passionnant. Voilà.
Et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le chemin pour devenir entreprise à mission entre le moment où tu prends ton poste et le moment où Wacam devient société à mission, sachant que l'entreprise est en très forte croissance, nouvelle identité, comment ça s'est construit ?
Alors, je dirais que une des conditions de la réussite, c'est que le dirigeant qui est au point de départ, il soit là tout le temps. C'est-à-dire que, et là aussi, c'est une de nos grandes chances, c'est que Olivier a une grande, cette conviction, il l'a de manière permanente, au quotidien. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on veuille vraiment mener ce combat d'une manière sur le long terme. Voilà. Donc, ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que c'est un accompagnement. On sait qu'il est là et qu'il va nous soutenir dans ce dispositif-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est comme c'était tout neuf en 2019, quand on a commencé nos réflexions, c'est qu'il faut se faire accompagner. On peut avoir se dire on va se débrouiller. Je pense que c'est une erreur. Encore une fois, devenir société à mission, c'est un objectif de long terme. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les moyens. Alors, faut faire les choses de manière graduelle. Hein. En fonction de la taille de l'entreprise, de ses moyens, on fait différemment. Mais encore une fois, c'est avant tout, c'est essentiel de faire les choses bien, de façon robuste. Encore une fois, on met des choses dans ces statuts, c'est pas pour y revenir tous les ans. Donc, nous, on s'est fait accompagner d'une part par un cabinet expert dans tout ce qui était RSE et puis sujet société à mission, quel cabinet profil. On s'est fait accompagner par un cabinet juridique, quel cabinet GIDE. Donc, ce sont des gens qui nous ont accompagnés à la fois dans la constitution de cette raison d'être, donc ils ne l'ont pas fait à notre place, mais ils nous ont aidés à formaliser, ils ont apporté des méthodes. Et donc, 6 mois pour réaliser une raison d'être, donc de manière collective avec différents collaborateurs de l'entreprise, en mobilisant une vingtaine de collaborateurs, donc 6 mois pour cette raison d'être. Et puis, 1 an ensuite pour formaliser nos engagements statutaires et opérationnels. Donc formaliser nos engagements, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle de mission, donc la déclinaison entre l'objectif statutaire, l'objectif opérationnel et ensuite les indicateurs de performance. Et je dois dire que c'était une vraie contrainte, mais finalement c'est aussi une vraie chance. La roadmap, c'était la feuille de route, c'était au moment où on va devenir société à mission, il faut que l'ensemble de ce modèle de mission, il soit prêt. Il soit opérationnel. C'est-à-dire qu'on ne devient pas société à mission et puis on se pose les questions. On devient société à mission et on est prêt à mener les différents combats, à mener les différents projets. Et ça, Olivier a été très clair quand on était au démarrage du projet. C'est on ne devient pas société à mission et puis sans être
ensuite,
vraiment
on réfléchit
armé.
À ce qu'on va faire.
Exactement. Et je dois dire que c'est, rétrospectivement, c'était bien de penser le modèle de cette manière-là.
C'est intéressant ce que tu dis, je me permets juste de t'interrompre. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, beaucoup d'entreprises qui décident de passer société à mission se focalisent énormément sur la partie raison d'être et objectif statutaire. Et se disent, bon, on verra après pour la déclinaison opérationnelle de tout ça. L'essentiel, c'est qu'on se focalise sur ces aspects-là, et puis déjà, ce sera un gros travail de fait. Alors que là, c'est vraiment de se dire, passer société à mission, oui, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est quand même la manière dont on décline cette mission et comment ça va se traduire dans la réalité d'entreprise.
Oui, l'important, c'est pas tant d'avoir le joli papier qui dit on est société à mission, c'est d'être prêt à mener les engagements qu'on a choisis. Quoi. Et pour le faire, ça nécessite beaucoup de préparation au préalable, beaucoup de réflexion. Encore une fois, calibrer la performance qu'on veut atteindre à 1, 2, 3 ans, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Ça nécessite de discuter avec ceux qui seront en charge des projets. Ça nécessite de discuter, nous, avec nos partenaires distributeurs qui sont impliqués dans ce déploiement-là. Donc voilà, on prépare une mise en production quelque part.
Et quand tu as piloté un petit peu tout ce processus-là avant de devenir entreprise à mission, est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises ou des obstacles que tu as dû surmonter ?
Alors, les obstacles, c'était l'incertitude, c'est-à-dire que... comment ça marche, une société à mission ? Il n'y a pas de littérature. On commence à en avoir un peu plus maintenant. Donc ça veut dire écouter beaucoup ce que ceux qui savent peuvent dire. Donc ça, c'est un élément important. Donc beaucoup d'humilité. Hein. Les bonnes surprises, c'est finalement la capacité de l'entreprise à s'engager. Donc maintenir son effort dans cet engagement, c'est-à-dire ne pas relâcher... cette conviction, ça me paraît un élément essentiel. Finalement, l'adhésion de certains partenaires, de nos partenaires sur certains aspects du dispositif, parce qu'on leur a demandé leur avis, on les a sondés. Donc là aussi, ils nous disent pas oui, c'est super. Mais effectivement, ils comprennent bien que certaines actions de transformation qu'on mène sont aussi à leur bénéfice. Je crois qu'on a des sujets d'image au sein de l'assurance qu'on doit améliorer. Et on essaie de les traiter aussi au travers de nos objectifs opérationnels. Je dirais que côté difficulté, c'est ça, c'est la feuille blanche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça marche, il va falloir l'apprendre. Et puis, bonne surprise, c'est plutôt une adhésion en interne et puis un regard bienveillant de la part de nos partenaires, même si on va rencontrer des difficultés.
Mais c'est intéressant cette difficulté par rapport à, en tout cas, cet obstacle de la feuille blanche. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose hein, en 2019, en 2020, encore aujourd'hui, hein, il y a un petit peu plus de choses, mais ça reste quand même assez, assez limité. Je ne peux qu'adhérer à l'idée que tu as partagé de se faire accompagner. Je pense que c'est vraiment indispensable, peu importe la taille de l'entreprise d'ailleurs. C'est intéressant aussi cette bienveillance que tu sens de la part des partenaires, parce que finalement, quand on se donne une mission, on se donne une mission à soi, mais dans une certaine mesure, directement ou indirectement, ça implique d'autres personnes aussi. Donc ça implique son écosystème.
Absolument. Nous, nos engagements, ils sont de deux natures. Nos objectifs sont de deux natures. Donc,
tu anticipes ma question, mais vas-y.
Oui, alors effectivement, il y a tout un pan de nos engagements qui sont en lien avec notre métier d'assureur. Et comme nous, on n'a pas un contact direct avec le client final, on est en B2B marque blanche. Pour faire passer ces messages, pour mener ces combats, on va avoir besoin de nos distributeurs, de nos partenaires, pour pouvoir les mener à bien. Donc voilà, ils sont au cœur de notre dispositif et c'est absolument essentiel d'expliquer, de convaincre avant de se lancer dans l'aventure. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est parti finalement de l'action. On est parti de, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie quotidienne? Quels sont les pain points du monde de l'assurance ou de l'impact social ou sociétal qu'on veut avoir? Et puis ensuite, on s'est dit, voilà, il faut les ranger dans quel type de famille? Et c'est devenu les objectifs statutaires.
Dans la suite de l'épisode, Denis détaille comment la mission a été formalisée et comment elle se décline aujourd'hui dans l'entreprise. Plein de bons conseils. Je te propose justement qu'on rentre un petit peu dans la raison d'être et les objectifs et les engagements. Est-ce que tu peux nous rappeler la raison d'être de Wacam ?
Rendre l'assurance transparente et impactante.
Alors, elle est très courte. Elle fait partie des phrases mémorables et punchy, comme je les appelle. Derrière chacun de ces mots, il y a un sens, j'imagine. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le sens que Wacam met derrière chacun de ces mots? Alors, transparent, on en a un petit peu parlé déjà, donc peut-être pas, mais impactant. Comment est-ce que Wacam définit impactant?
Donc oui, notion de comment dire, principe de transparence et d'impact. Effectivement, les gens comprennent mieux, plus facilement le mot transparence. Un peu moins celui d'impact. Donc c'est vrai que c'est important de l'expliciter. Alors il a plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est on veut que les actions qu'on mène, elles aient de l'impact. C'est-à-dire que dans la relation qu'on a avec nos partenaires, avec notre écosystème, on est une action de transformation. Okay, on est un côté systématique. On fait pas juste une ou deux transformations avec un ou deux partenaires. On transforme l'ensemble de notre relation avec nos partenaires, qu'ils soient en France, qu'ils soient à l'étranger. Personne, entre guillemets, n'échappe à notre mission. L'impact, c'est ça, le premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est plus lié à un impact social ou sociétal. On parlait tout à l'heure des produits d'assurance inclusive. Là, on est dans l'impact social et sociétal. On veut effectivement avoir donner une image un peu différente de l'assurance au travers de ces produits. Imaginer travailler avec des associations, travailler avec identifier des cas d'usage qui vont faire qu'on va pouvoir traiter des problèmes de société. Donc on l'a fait avec la micro-assurance, donc là c'est population économiquement fragile. On l'a fait récemment sur un autre thème avec le produit Colibri. Traiter le problème des enfants et du harcèlement dans le cadre du milieu scolaire.
Donc voilà. C'est super intéressant ça d'ailleurs.
Donc voilà, donc l'impact c'est aussi ça. Voilà. C'est à la fois l'impact au niveau de notre métier, c'est-à-dire qu'on va transformer les choses, mais on le fait avec impact, c'est-à-dire qu'on le fait avec en systématisement ces transfos, en les appliquant à tout le monde, et puis le côté social ou sociétal.
Et avant qu'on rentre dans les engagements, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension française et une dimension aussi internationale dans la vie de Wacam. Et est-ce que tu sens que parmi les partenaires étrangers, il y a une bonne compréhension aussi de cet objet un peu bizarroïde, pour le moment plutôt franco-français, qu'est la société à mission? Comment vous l'expliquez?
Alors, pas simple d'expliquer un sujet, finalement un dispositif très français. Par contre, les combats qu'on mène, ils sont, je dirais pas universels, mais le fait d'avoir une documentation juridique claire, ouais, compréhensible, accessible à tous, enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose de facile à expliquer. Le fait de dire on va mesurer la satisfaction des clients, le fait de dire on va construire des produits paramétriques pour faciliter l'indemnisation des clients. Voilà, tout ça, finalement, on parle aussi de sujets qui sont pas français, mais qui concernent tout le monde de l'assurance.
Voilà, l'assurance, qu'on soit en France ou à l'étranger.
Mais effectivement, pour un partenaire, je sais pas, espagnol ou anglais, société à mission, ça parle pas. Donc faut arriver à expliquer pourquoi on transforme, pourquoi on mène ces combats et à quoi ça ressemble dans un univers qu'ils connaissent mieux.
Alors passons aux engagements et aux objectifs. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que moi je suis un grand amateur des missions, je les décrypte toutes les semaines, etc., les raisons d'être, les objectifs. Alors j'ai eu beau chercher les objectifs statutaires de Wacam, je ne les ai pas trouvés, et tu m'as dit, mais en fait c'est normal, on ne communique pas dessus, nous on communique sur nos engagements opérationnels.
Oui, c'est vrai que c'est un peu, peut-être un peu inhabituel. Alors, la différence entre un objectif statutaire et un objectif opérationnel, c'est qu'un objectif statutaire, ça n'a pas vocation à bouger souvent. C'est assez conceptuel. Et comme c'est conceptuel, ça parle un peu moins, c'est un peu moins, comment dire, c'est un peu moins concret. Pour nous, la mission, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que ça doit parler à nos collaborateurs, ça doit parler à nos partenaires, ça doit parler aux gens auxquels on s'adresse quand on parle de mission. Donc c'est pour ça qu'on est descendu d'un cran et qu'on met en avant nos objectifs opérationnels. On ne cache pas nos objectifs statutaires, simplement on pense que c'est plus impactant, voilà, plus fort, de parler des 9 objectifs opérationnels que de parler des 4 objectifs statutaires. Mais pour autant, ils sont là et puis on les assume complètement.
Alors, est-ce que tu peux nous les donner plus ou moins?
Alors, peut-être, je me permets juste de compléter. Et quand on a formulé nos engagements, en réalité, on a d'abord formulé nos engagements opérationnels. Et ensuite, on est remonté d'un cran en les concentrant dans 4 objectifs statutaires. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est parti finalement de l'action. On est parti de, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie quotidienne? Quels sont les pain points du monde de l'assurance ou de l'impact social ou sociétal qu'on veut avoir? Et puis ensuite, on s'est dit, voilà, il faut les ranger dans quel type de famille? Et c'est devenu les objectifs statutaires.
Finalement, c'est assez cohérent avec le point de départ qui est justement ce produit d'assurance inclusive. Donc on part vraiment du terrain pour remonter sur des choses un peu plus conceptuelles finalement. Et donc, alors, comment est-ce que vous avez rangé ces fameux 9 engagements opérationnels, donc 4 objectifs statutaires, qui traitent de quoi finalement?
Alors, deux séries d'objectifs. Un qui traite du moteur, c'est notre activité d'assureur. Donc ça, c'est un objectif statutaire et donc qui est décliné en 4 objectifs opérationnels. Et c'est là où on va retrouver le langage clair, la répartition de valeur, donc le fait de s'assurer que les taux de commission restent raisonnables, l'automatisation de l'indemnisation, donc c'est créer des produits paramétriques qui soient plus simples pour l'usager, et puis la mesure de la qualité de service. Donc voilà, là on touche au cœur du réacteur et de notre relation avec nos partenaires. Et ensuite, on a 5 autres objectifs opérationnels qui sont regroupés dans 3 objectifs statutaires, avec un des objectifs qui est le fait de veiller au respect des principes de transparence et d'impact. Donc ça, c'est la sélection des partenariats. C'est de dire tous les partenariats que l'on met en production, ils sont conformes à nos engagements mission. Alors Je trouve que c'est un des engagements les plus importants parce que finalement, c'est de dire bah, la machine à produire des partenariats, c'est une machine à produire des partenariats conformes à nos engagements mission.
De fait.
Ça me paraît assez essentiel, sachant que nous, notre métier, c'est effectivement d'être un assureur qui construit des partenariats. Donc, c'est de se dire tout ce qui rentre, tout ce qui rentre chez Wacam, ça respecte nos engagements. Ensuite, on a un autre objectif qui est servir les populations fragiles. Donc c'est là où on retrouve l'assurance inclusive dont on parlait tout à l'heure, c'est là où on va retrouver aussi le mécénat de compétences et puis la création d'un fonds de dotation qu'on a réalisé fin 2021. Le dernier objectif, c'est un objectif qui est très important aussi. En tant qu'assureur, on a beaucoup d'actifs à gérer et donc c'était le fait d'initier une politique ISR et puis de la renforcer au fil des années. Voilà un peu le panorama général. Et donc, nos 9 engagements opérationnels sont tout à fait visibles sur notre site. On les affiche. On affiche aussi l'ambition qui va avec. Un point important, autant les objectifs statutaires,
objectifs qu'on cherche à atteindre, mais voilà, lointains.
Lointains. Autant les objectifs opérationnels, ils sont vivants. Donc, on va les ajuster tous les ans. La trajectoire, on la définit à un instant T, et comme tout projet, on va être amené à réviser les trajectoires quand on se rend compte que c'est plus dur, quand on se rend compte qu'on peut aller plus vite, et ben on va aller plus vite. Et ça, c'est un élément absolument essentiel dans le dispositif Société à Mission. C'est pas un carcan qu'on peut jamais faire bouger. Les objectifs opérationnels, ils sont là pour vivre et être appropriés par les collaborateurs de l'entreprise. Ils sont là aussi donc pour être ajustés fonction de la difficulté des différentes trajectoires.
Alors là, il y a deux aspects que tu as mentionnés qui sont intéressants et on va traiter des deux. Le premier, c'est l'appropriation par les collaborateurs, la déclinaison, la manière dont ça se passe. Et puis après, c'est la manière dont ces objectifs sont revisités aussi, à quel moment ça se passe, à quels endroits. Alors j'imagine dans le comité de mission, mais peut-être pas que. On va peut-être commencer par la déclinaison et l'implication des collaborateurs. Donc concrètement, comment ça se passe ?
Alors, première chose, c'est que la trajectoire, on l'a définie de manière collective. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément... La mission, elle n'est pas responsable de tous les projets. La mission, elle est là pour accompagner, pour aider, parfois mettre les mains dans le cambouis. Hein. Mais chaque engagement est porté par un collaborateur, donc pas forcément de la mission. Par exemple, satisfaction client, c'est Alexis qui est le patron de la gestion chez nous, qui est en charge de le déployer. Langage clair, c'est l'équipe produit. Mécénat de compétences, c'est l'équipe People, donc RH. Donc voilà, donc première chose, c'est faire en sorte que le projet mission soit porté par pas mal d'acteurs légitimes et qui sont en charge ensuite de déployer cette trajectoire. Pour aider à cette exécution, donc on a une méthodologie d'objectif individuel qui s'appelle OKR, Objectif Key Result. Qui fait que chaque collaborateur se porte un bout dans ses objectifs individuels, porte un bout de la mission. Donc ça facilite la transversalité du pilotage des projets. Donc la mission, elle est infusée au sein de l'entreprise parce qu'il y a des garants des différents engagements. Et puis les collaborateurs sont aussi investis de ces différents engagements par leurs objectifs individuels.
D'accord.
Deuxième élément, on a des rituels au sein de l'entreprise, on a des instances de gouvernance, la mission est présente. Je te donne un exemple, tous les mardis matins, on a des plénières, on a des instances de validation de nos business, et la mission elle est présente toutes les semaines, c'est-à-dire que nous on va dire, tel business qui nous est présenté, il a tel défaut. Le taux de commission est trop élevé, pourquoi on ne met pas de langage clair, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc ça veut dire que d'une manière récurrente, d'une manière hebdomadaire, la mission revient sur le tapis, la mission est présente, et donc ça veut dire que personne ne peut dire je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Voilà. Et surtout, elle est traduite dans le langage business de l'entreprise.
Elle est traduite dans le langage business de l'entreprise. C'est présenté à nos partenaires. Les collaborateurs se sont appropriés les grands principes. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un élément fort du dispositif.
Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous partager où tu t'es dit « Oh, c'est impressionnant à quel point la mission a infusé à l'intérieur de l'entreprise ?»
Oui. Je ne sais plus à quelle époque c'était, mais on avait demandé aux collaborateurs de voter pour le produit d'assurance qu'on avait construit qu'ils préféraient. C'était notre produit micro-assurance à destination des populations fragiles, à l'unanimité quasiment.
D'accord. Bon, très bien. Donc alors, si je comprends bien, donc les 9 engagements sont portés par différents services ou différentes personnes à l'intérieur de l'entreprise qui sont incentivés quand même, j'imagine, de fait. Il y a une partie d'incentive sur leur rémunération aussi ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc ça, c'est pour la partie déclinaison opérationnelle des engagements. Et ensuite, la mission, ça bouge un petit peu la gouvernance de l'entreprise aussi, puisqu'il y a le comité de mission qui intervient. C'est toi qui l'as constitué, alors, j'imagine pas tout seul, mais c'est toi qui l'a un peu constitué, c'est toi qui le pilote aujourd'hui ?
Alors, le comité de mission, on l'a constitué au moment où on est devenu société à mission, c'est-à-dire qu'on est devenu société à mission en mars 2021, et puis on l'a constitué à l'automne 2020, donc quelques mois avant. Donc ça, c'est une première chose. On l'a constitué de manière collective, donc comment dire, en essayant... Alors, première chose, on ne voulait pas non plus un comité où on soit trop nombreux.
Oui, parce que vous êtes quoi, 5
hein, on est 5, ouais. Donc forcément, il faut un collaborateur, un représentant des salariés. Et puis, on voulait un comité qui regroupe des expertises différentes, des savoir-faire différentes, qui soit à la fois bienveillant, mais qui soit aussi capable de challenger l'entreprise. Je pense qu'un comité de mission, il doit comprendre le business, il doit aimer l'entreprise. Enfin, s'il n'y a pas une relation un peu affective... Pourquoi les gens vont venir se mobiliser pour participer à, voilà. Donc il faut qu'il y ait une forme de motivation qui soit là. Donc on a voulu à la fois un expert de l'assurance, quelqu'un qui soit légitime, qui a un savoir-faire. Donc c'était Rémi Grenier qui est devenu président du comité de mission, qui est l'ancien patron d'Alliance Partner. Donc c'est quelqu'un qui est incontestable dans le monde de l'assurance. Quelqu'un qui nous avait accompagné dans le cadre de l'assurance inclusive, donc qui représente un peu notre impact social ou sociétal, c'est Jean-Louis Kiel, le président des fondations Crésus, qui aime beaucoup Wacam par rapport à la conviction qu'on peut avoir dans nos différents projets, qui a beaucoup d'admiration aussi pour Olivier et pour les travaux qui sont menés. C'est quelqu'un qui parle franchement, directement, qui a beaucoup de conviction, du punch. Donc
c'est assez... Il a quelque chose à dire, il le dit.
Et voilà, exactement. Ensuite, on a Geneviève Ferron, qui nous avait accompagné aussi dans la construction de notre raison d'être et de la formalisation de nos engagements, qui est une sommité dans le monde de la RSE, dans le monde de la société à mission. Une personne pour laquelle j'ai énormément de respect. Elle va s'assurer que tout ce qu'on fait est robuste et compliante et respecte bien les principes de la société à mission, qui va nous donner aussi qui va nous permettre d'avoir une prise de hauteur aussi par rapport à nos réflexions. Et puis ensuite, une chef d'entreprise qui représente le monde économique, mais le monde économique engagé. Donc c'est Paola Fabiani qui est chef d'entreprise, patronne de Wescom, membre du CESE, membre du MEDEF. Donc quelqu'un aussi avec beaucoup de conviction. C'est ça notre comité mission. Et donc on a commencé nos travaux en février 2021, avant même d'être société à mission, pour les embarquer. Et encore une fois, être comité de mission, ça veut dire quoi ? On ne le savait pas trop encore à l'époque, donc on a essayé d'imaginer quel serait notre roadmap. Et puis, en tout cas, les premiers travaux, c'était déjà, il faut expliquer ce que c'est Wacam, parce qu'un comité de mission doit d'abord comprendre l'activité de l'entreprise, ses enjeux stratégiques, pourquoi avoir choisi telle et telle trajectoire. Donc, c'est les embarquer dans notre dispositif. Donc ça, c'était vraiment les premiers travaux. Et puis, au fil des discussions, au fil de nos réflexions, c'était créer du lien entre ce comité de mission et l'entreprise. Il ne faut pas que le comité de mission soit hors sol et puis réfléchisse dans son coin. Donc c'était de faire en sorte qu'à chaque session du comité de mission, les responsables des engagements viennent présenter leurs travaux. Donc on a institué le principe du, alors on appelait ça le 3x3, trois comités de mission et à chaque fois on présente trois engagements. Et donc les gens viennent pitcher, Sophie des produits vient pitcher devant le comité de mission, expliquer la trajectoire langage clair, vient expliquer les difficultés qu'on rencontre, les succès qu'on a. Je pense que on est très content d'avoir réalisé, d'avoir pris cette direction-là, parce que ça donne aussi de la transparence, c'est-à-dire que le comité de mission, il est en prise directe avec l'entreprise. Les collaborateurs sont en prise directe avec le comité de mission. Donc ça crée du lien. On a fait en sorte d'avoir une espèce de rituel au niveau de nos comités de mission, d'avoir un agenda permanent. Et puis ensuite, on a des choses qui varient d'un agenda à un autre. Donc on parle à chaque fois un peu de l'évolution de la société à mission, donc ce qui se dit au niveau de l'observatoire, donc la météo de nos engagements et puis la venue des collaborateurs. On a construit un cockpit, un outil de pilotage de nos indicateurs. Donc on vient présenter aussi ça. On les associe à certaines prises de décision. Et donc ils nous ont accompagnés dans le choix de l'OTI.
L'organisme tiers indépendant.
L'organisme, l'auditeur, l'auditeur des sociétés à mission. Donc le comité de mission, il a un agenda assez récurrent. Et puis ensuite, il y a des choses qui viennent par rapport à l'actualité, qui viennent agrémenter nos réunions. Et puis on essaie de faire venir des invités, un chief mission officer d'une autre entreprise, quelqu'un de la communauté des entreprises à mission, l'auditeur OTI, Donc à chaque fois, c'est d'avoir un intervenant qui va permettre de faire un pas de côté et puis d'avoir une prise de recul. Voilà, donc voilà un peu comment on s'est organisé au niveau du comité de mission. Et puis voilà.
Et quelle leçon tu en tires, toi, après, maintenant, ça fait quoi, un an, un peu plus de presque un an et demi de fonctionnement du comité de mission? Est-ce qu'il y a des points que t'as ajusté, toi, dans l'animation du comité de mission?
Je crois que quand on a démarré, on avait vraiment conscience qu'il fallait... Enfin, il y a une première année qui est une espèce de mise en œuvre. Donc on avait conscience qu'on n'allait pas commencer à parler d'enjeux stratégiques dès les premières réunions. Encore une fois, le comité de mission, il a deux niveaux d'intervention. Le premier, qui est réglementaire, c'est de s'assurer que l'entreprise met en œuvre des moyens, met en œuvre des ressources, pilote bien ses indicateurs. Donc ça, on l'a construit au fur et à mesure de l'année 2021. Ça fonctionne. Il y a certainement des choses perceptibles. Mais après... L'autre niveau qui est optionnel, mais qui est certainement recommandé, on sait très bien qu'il faudra un peu plus de temps pour arriver à le rendre actif. Donc voilà, ça va se faire par étapes, ça doit se faire par étapes, il faut apprendre à se connaître, il faut que le comité de mission connaisse l'entreprise, il faut qu'il connaisse sa stratégie, ses engagements, etc. Donc vraiment, on a posé les fondations. Maintenant, on va essayer d'aller un cran plus loin. Donc on a commencé à réviser nos engagements, les a embarqués dans cette logique de révision annuelle des engagements, ce qui, on ne savait pas trop si on avait le droit de le faire d'ailleurs. Donc on a discuté avec l'OTI, on a prévu de faire comme ci, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Donc à chaque fois on essaye d'aller un petit cran plus loin dans la profondeur d'intervention et du champ d'intervention du comité de mission.
C'est vrai qu'en soi, on peut soit avoir un comité de mission qui est une espèce de chambre d'enregistrement, mais je trouve que ce n'est pas très, très utile, ou alors effectivement avoir un comité de mission qui est vraiment impliqué dans des discussions sur l'avenir de la mission, comment elle est structurée, etc. Et assez rapidement, tu arrives à discuter d'enjeux stratégiques. Et c'est là où ça devient, je trouve, un organe qui est utile aussi pour l'entreprise, et pas simplement pour le pilotage de la mission, mais aussi pour l'entreprise.
C'est aussi pour ça qu'on a nommé le comité de mission pour une durée de 3 ans, pour qu'il y ait le temps de poser les fondations et puis ensuite d'aller plus loin. Olivier pensait que j'étais à même de mener à bien cette mission, non pas parce que j'étais un expert RSE ou société à mission, mais parce que je connais bien notre industrie, je connais bien nos partenaires, et donc il y a une forme de légitimité à porter ces messages-là auprès de notre écosystème.
Dans la suite de l'épisode, on se focalise davantage sur le quotidien de Denis en tant que Chief Mission Officer, et vous verrez, il y a différentes facettes qui sont vraiment très intéressantes. À ton rôle, à ton quotidien, parce que tu as la particularité donc, d'être Chief Mission Officer, mais à temps plein. Parce que dans toutes les entreprises qui sont sociétés à mission, il y a bien quelqu'un qui pilote un petit peu cet objet qui se construit. Mais c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui est dédié à ça à temps plein, même si effectivement tu as d'autres activités, mais qui sont toutes liées à la mission. Avant qu'on parle vraiment de ton quotidien, est-ce que tu te souviens quand Olivier Jaillon t'a dit « Denis, ça t'intéresse de devenir Chief Mission Officer ?»
Je m'en souviens très très bien. C'était en juin 2019. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais tout petit, comme Obélix. Mais tout de suite, ça a résonné en moi d'une manière très, très vivante et très, comment dire, ça correspond tout à fait à mes aspirations. Il s'est trouvé que moi, ça faisait quand même pas mal d'années que j'étais Chief Revenue Officer. Et puis donc, moi, j'aime bien les changements, j'aime bien les nouvelles aventures. Donc, Olivier, il aime aussi, je pense, confier à certains collaborateurs de nouveaux projets. Donc voilà, il y a eu une conjonction qui s'est révélée positive. Encore une fois, j'ai pas hésité du tout. Olivier pensait que j'étais à même de mener à bien cette mission, non pas parce que j'étais un expert RSE ou société à mission, mais parce que je connais bien notre industrie, je connais bien nos partenaires, et donc il y a une forme de légitimité à porter ces messages-là auprès de notre écosystème. Par contre, je partais de la feuille blanche sur le sujet société à mission. remarque, comme tout le monde, puisque c'était nouveau pour moi, mais pour tout le monde. Par contre, ça a été passionnant d'échanger avec tous les acteurs qui en savaient plus que moi, d'apprendre, d'imaginer comment rendre robuste l'ensemble de cet édifice. Donc, pas facile à cause de cette feuille blanche, mais un exercice passionnant parce qu'il y a tout à construire. Tout à construire à la fois au sein de WACAM, donc notre trajectoire, et puis aussi participer à la construction de ce dispositif en adhérant à la communauté des entreprises à mission et en participant à des groupes de travail. C'est pas souvent qu'on participe à la création d'un nouveau métier.
Voilà, donc, justement, alors, explique-nous un petit peu ton métier. Alors, je vais pas te dire raconte-nous ta journée type, mais... C'est quoi les grandes tâches, les grandes missions ?
Alors, ce n'est pas les mêmes tâches aujourd'hui, en 2022, que celles de 2020. 2019, 2020, voire 2021, on crée des fondations, on fait en sorte de construire un cadre qui soit robuste, qui soit conforme aux peu de bonnes pratiques qu'on connaissait à l'époque, mais qu'on imagine, enfin, construire un cadre qui soit... à la fois robuste par rapport à ce que c'est qu'une société à mission et puis aussi à la fois très opérationnelle, très tournée vers l'action pour les collaborateurs et les partenaires. C'est rendre la mission intelligible pour ceux auprès desquels on va demander de l'aide et du déploiement. À aujourd'hui, je dirais qu'on est toujours quand même dans cette logique d'être vigilant sur nos objectifs et sur la robustesse, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire évoluer. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les engagements qu'on s'est donnés, opérationnels, ils sont vivants, il va falloir les faire évoluer, les ajuster à la réalité du terrain, je dirais. Donc ça va rester. Et ensuite, maintenant, on est dans une phase de déploiement. Donc c'est animer le comité de mission. C'est rédiger un rapport de mission tous les ans. Là aussi, c'était notre premier, donc c'est un sacré exercice. C'est animer la relation avec l'OTI, donc l'auditeur des sociétés à mission. C'est continuer à comprendre quelles sont les bonnes pratiques. Donc voilà, c'est continuer d'emmagasiner du savoir-faire. Et puis, je pense qu'un de nos rôles aussi, en tant que... on est quand même parmi les premiers... en plus dans le monde de l'assurance, c'est aussi apporter aux autres un peu de notre savoir-faire. C'est-à-dire que le fait de faire partie de groupes de travail au sein de la communauté fait que on va donner un peu... Alors, il y a des universitaires qui, eux, vont être plus dans le concept et puis dans les principes, dans les... Voilà. Et nous, on va être plus être les praticiens qui allons apporter du savoir-faire dans la vie quotidienne et des bonnes pratiques très, très, très concrètes. Donc voilà, donc, il y a à la fois un aspect à aujourd'hui pilotage, animation du comité de mission, partager des bonnes pratiques au sein de la communauté, mais qui n'était pas forcément ces travaux-là qu'on menait il y a 2 ans. Voilà.
Donc. Toi, tu es donc Chief Mission Officer, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont associées également à la mission ?
Alors, au démarrage, oui, c'est une bonne question. Au démarrage, donc en 2019, j'ai commencé tout seul. Et puis, piloter l'ensemble du dispositif mission, notamment aussi le sujet d'assurance inclusive, on se rend compte que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, première chose, on a pris une personne en alternance début 2020, au moment où elle est arrivée le jour du démarrage, quasiment au moment où la pandémie s'est déclarée. Donc, on a fonctionné à distance. Donc, une jeune fille qui s'appelle Noémie, elle est chez nous depuis maintenant 2 ans. Donc, elle était d'abord en alternance. Donc elle a fait un énorme travail pour nous accompagner, et notamment sur certains projets comme le langage clair, comme le mécénat de compétences. Voilà, une personne très investie. Et puis l'année dernière, en septembre 2021, pour justement prendre en charge ces sujets d'assurance inclusive, puis faire en sorte qu'on arrive à en déployer le plus possible, donc Timothée nous a rejoint, Timothée Bouteloup, qui était précédemment le chief of staff d'Olivier. Et lui, il est devenu, Timothée, le patron de l'assurance inclusive. Donc, ça veut dire que l'entreprise met les moyens aussi pour faire en sorte que le dispositif fonctionne, perdure, et puis surtout, qu'on ait de l'impact, quoi, hein. Encore une fois, l'idée sous-jacente, c'est de le faire avec force et puis faire en sorte que ces produits d'assurance inclusive, on en déploie des milliers, quoi.
Si on revient un petit peu justement à ce pilotage de la mission au quotidien, toi, comment est-ce que tu interagis avec les 9 pilotes des différents engagements ?
Donc avec les différents pilotes des engagements, donc on travaille de manière très, très collaborative. D'une part, donc, les engagements font partie de leurs objectifs individuels, font partie des objectifs individuels de la plupart des collaborateurs. Notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de faciliter... C'est d'expliquer, c'est de faire le lien avec le comité de mission. Parfois, on va plus loin quand des sujets sont un peu complexes. C'est de trouver des partenaires, des fois, pour nous accompagner. Je prends l'exemple du langage clair. C'est vraiment l'Everest, hein, pour nous. Ça, c'est le sujet le plus passionnant, le plus complexe en termes de transformation. Là, il faut acquérir du savoir-faire. Enfin, on ne s'invente pas. Linguiste, rendre accessible, rendre simple des contrats d'assurance, c'est un sacré programme. Donc on se fait accompagner, donc faut trouver des gens qui vont être compatibles avec nous, avec Wacam, avec notre culture, notre façon de travailler, qui vont être pertinents, qui vont nous permettre d'aller plus loin en termes d'innovation. Donc là, on a trouvé un partenaire, par exemple, pour scorer la transformation de nos produits d'assurance en langage clair. Puis aussi, c'est d'alerter quand des choses ne se déroulent pas bien. Donc voilà, donc dans la relation qu'on a avec les pilotes des engagements, c'est vraiment travailler à leur côté, quoi.
Alors, il y a un autre aspect, je ne l'ai volontairement pas évoqué jusqu'à présent, c'est le rapport de mission. Puisque au jour où on se parle, il est quasiment terminé. J'imagine que c'est le maquettage, la relecture, ce genre de petites choses-là. Mais c'est toi qui étais un petit peu, j'imagine, à la manœuvre pour coordonner ce document-là. Déjà, est-ce que tu es soulagé ?
Presque. C'est un gros travail. C'est notre premier rapport de mission, donc on a regardé ce que les autres avaient fait pour non pas copier, mais pour essayer de regarder, d'identifier des bonnes pratiques. s'assurer qu'on était en conformité avec, avec les principes réglementaires. Et puis donc un travail très collaboratif avec le comité de mission, parce que c'est le rapport. Alors, est-ce que c'est le rapport de mission ou le rapport du comité de mission? C'est les deux. Voilà, notre vision, c'est les deux. C'est-à-dire que l'entreprise est bien sûr présente, et puis le comité de mission est bien sûr aussi tout à fait à la baguette, enfin à la manœuvre. Hein. Donc c'est un travail à la fois qui met en lien le comité de mission avec, avec les composantes de l'entreprise. Donc c'est quasiment 4 mois de travail. Pas à temps plein, bien sûr, mais 4 mois de travail. Réfléchir à comment on veut présenter les choses, présenter la mission, présenter les objectifs, là où on en est pour chacun des objectifs, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Il y a des succès, puis il y a des choses, il y a des difficultés, forcément.
Et il faut les dire.
Il faut les... Absolument. Je trouve que c'est plutôt bien d'afficher qu'on rencontre certaines difficultés. Ça prouve aussi, ça donne la preuve que c'est consistant, que c'est, comment dire, que la trajectoire, elle est pentue, elle est ardue, et que, voilà, c'est pas un exercice de style. Donc voilà, donc c'est un exercice de transparence, de mise à nu un peu de tout ce qu'on a pu, de tout ce qu'on a pu faire. Donc je trouve ça un exercice passionnant.
Tout ça en langage clair, évidemment.
Tout ça en langage clair. Alors, on a passé notre rapport de mission au Lizzy Score, donc un score de lisibilité. L'idée, c'est pas tant pour ce rapport de mission d'avoir le meilleur score possible. Enfin, on a essayé en tout cas d'être clair, si. Mais il y a une vocation pédagogique à dire on s'applique à nous-mêmes ce qu'on veut appliquer à nos partenaires. Je pense que ça, c'est aussi un des principes qu'on met en avant dans nos dispositifs société à mission, que ce soit pour l'assurance inclusive, donc on fait bénéficier nos collaborateurs de nos produits d'assurance inclusive, la satisfaction client, nos équipes de gestion se l'appliquent à elles-mêmes. Donc le principe d'exemplarité nous paraît essentiel. Donc on a passé notre rapport de mission au Lizzy Score pour montrer que, voilà, que comment dire, l'analyse de l'accessibilité d'un texte est un élément clé de notre dispositif.
Quand tu dois expliquer ton métier à quelqu'un qui ne connaît absolument pas la société à mission, qu'est-ce que tu lui dis ?
C'est une très bonne question. Déjà, c'est vrai que le terme société à mission, enfin la qualité de société à mission, c'est pas encore très connu. Chief Mission Officer, encore moins, ou manager de la mission. Et je veux surtout pas dire que je veux surtout pas parler des RSE, parce que ça serait ça serait pas le bon angle d'attaque. Quand j'en parle, je dis c'est des combats que l'entreprise choisit, un engagement de long terme pour transformer notre écosystème. Voilà, c'est un engagement social et sociétal des entreprises pour transformer de manière durable un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas.
D'accord, non, très bien. C'est une manière de présenter, c'est vrai que c'est difficile. Hein,
c'est pas simple.
Je te propose qu'on passe à l'instant musical pour terminer. Donc c'est une coutume de la newsletter et du podcast également. Donc là, tu as carte blanche pour me donner un morceau qui te parle pour une raison que tu peux m'expliquer ou pas, si tu préfères pas. Mais qu'est-ce que tu as choisi ?
Alors, moi, je suis un passionné de jazz. Moi, j'ai découvert le jazz avec Louis Armstrong il y a fort longtemps. Je suis un passionné de musique avant tout, voilà, mais de jazz en particulier. Donc c'est venu au fil des années. Et le morceau qui me touche le plus, c'est un morceau, enfin c'est un disque de Keith Jarrett. C'est le Köln Concert. Donc c'est un des albums les plus vendus en jazz. Alors est-ce que c'est oui, c'est du jazz. Pourquoi j'aime beaucoup ce morceau ? Parce que pour des raisons qui m'échappent, ça me fait vibrer. C'est du piano solo, hein. Parce que Keith Jarrett, pour moi, c'est un monument de la musique. C'est un homme très bizarre, très particulier, mais ça, je trouve qu'il y a une forme de génie. Alors pourquoi ce concert et Keith Jarrett ? Parce que il est arrivé devant son piano ce jour-là à Cologne, sans savoir ce qu'il allait jouer. En plus, il était de mauvaise humeur parce que c'était pas le piano qu'il voulait. Et il a commencé ses premières notes en entendant la sonnerie de démarrage du concert de l'opéra. Il a commencé à 4 notes comme ça et ensuite il est parti. Alors, c'est de l'impro pur, mais forcément, quand on est un maître du piano, c'est de l'impro pur, mais qui s'appuie sur tellement de bases, de connaissances, de structures acquises, que c'est une impro. Donc, c'est un exercice que je trouve étonnant parce que c'est une mise en danger totale. C'est la feuille blanche et puis il faut se lancer. Donc, il y a une espèce de petit parallèle avec le sujet émission. Donc, voilà, donc, je trouve que c'est un disque absolument incroyable.
Mais parfait, c'est très bien, c'est la première fois qu'on me propose un morceau de jazz, donc je prends avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Denis pour cet échange. Je trouve que c'était extrêmement riche. Ça permet de mieux comprendre la mission de Wacam, ce qu'il y a derrière et l'engagement véritable qui touche le cœur de l'activité de Wacam. C'est pas quelque chose qui est à côté, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur. Et puis, je trouve que c'est un bon moyen aussi de démocratiser ton métier, qui, j'espère, va devenir de plus en plus fréquent dans les entreprises. Donc un grand merci pour cet échange.
Eh ben, c'était un plaisir de pouvoir partager toute cette expérience. À très bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5, sur Apple Podcast et sur Spotify. Alors bizarrement, sur Spotify, ça ne fonctionne que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement du podcast et faire que d'autres puissent le découvrir plus facilement. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, voire de vous faire accompagner dans cette démarche, vous pouvez me contacter via mon site lamachineascence.fr ou sur LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.